95.7 Kick, Saguenay. Le show du matin avec Dominique Fortin, Marc Diquet, Martin Thomas Côté et Tania Clouston.
7h19, bien évidemment, il faut à ce moment-ci réitérer toutes nos condoléances envers la famille Bédard qui a perdu un membre de la famille, évidemment très important,
ben,
mais également la région a perdu quelqu'un de très important hier.
Ben, je pense qu'effectivement, le Québec a perdu quelqu'un d'important hier, quelqu'un qui était peut-être un peu dans l'ombre pour le reste du Québec, mais qui, dans la région, oui, était une figure de proue du mouvement souverainiste.
Oui.
L'un des rares députés élus en 1973 du Parti québécois. Écoute, il faut se rappeler qu'en 73, Lévesque n'est pas élu, là.
Non, puis il n'y a pas grand monde là, autour
et
de la table.
Je pense qu'il était 6, puis notre prochain invité pourra me corriger parce que ma mémoire fait défaut des fois.
Mais, c'est pas mal le club des 6.
C'est pas mal le club des 6. Ensuite de ça, a été réélu en 76, ministre de la Justice de 76 à 85.
Ouais.
Il a été impliqué dans les campagnes du oui de 80, de 95.
Mais je pense qu'au-delà de tout ça, régionalement parlant, moi, il y a deux députés que je peux nommer, là, tu sais, en fait, dans l'histoire relativement moderne de la région, où je peux dire telle affaire, c'est lui, telle affaire, c'est lui, telle affaire, c'est lui. Moi, dans ma tête, c'est évidemment, pour moi, mon âge, Marc-André Bédard et André Harvey sont probablement les plus grands députés qu'on aura connus dans la région, là. Il y en a eu d'excellents, il y en a eu de très bons, mais ces deux-là se démarquent particulièrement. Et Marc-André Bédard, mais évidemment, tu sais, si on disait souvent le Saguenay-Lac-Saint-Jean est péquiste et surtout indépendantiste, c'est en grande partie grâce à lui. Et une des personnes qui l'a bien connu au PQ, ben, c'est Pauline Marois qui est avec nous ce matin. Madame Marois, bon matin.
Bonjour.
Comment était-il? Parce que nous, on connaît le Marc-André Bédard, évidemment, toujours souriant, très, très à l'écoute du monde. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé la première fois que je l'ai rencontré. C'est les questions, tu sais, il s'intéressait à nous. Les questions, vous êtes qui, vous venez d'où, vos parents sont qui, ah oui, vous avez grandi, fréquenté quelle école. Quelqu'un qui avait l'air très intéressé à tout le monde qui l'entoure.
Et c'était absolument vrai. C'était son comportement. C'était un homme d'abord très calme, très pondéré tout le temps, à l'écoute. Je crois que c'est comme ça qu'il s'alimentait aussi, pour faire en sorte que ses politiques soient le mieux adaptées possible, répondent le mieux aux besoins de ses concitoyens et concitoyennes. C'était un géant à sa façon, un géant plus, je dirais, plus effacé que ceux auxquels on est habitués, mais pas moins efficace. Et au contraire, moi, je pense qu'une des grandes forces, d'ailleurs, je dis souvent, c'est que c'était une force tranquille, Marc-André. Sa grande force a été d'agir très concrètement sur tous les fronts dont il était responsable comme ministre de la Justice. D'abord, c'est un homme intègre, d'une grande loyauté. Il a voulu introduire au sein des institutions liées à la justice de l'équité, de la transparence. Il a constitué un conseil de la magistrature. Pour lui, c'était important que le système de justice soit intègre et que les gens fassent confiance à la justice, parce que ça reste le dernier recours pour beaucoup de citoyens. Au-delà de ça, il a fait adopter, écoutez, le nouveau code civil, mais il a transformé le droit de la famille il y a 40 ans. Ce droit de la famille n'a pas été revisé depuis 40 ans. C'est vous dire comment il était déjà en avant de son temps à l'époque. Évidemment, maintenant, on veut le rénover et tout, et c'est normal. Mais c'est ça qu'il a fait il y a 40 ans, en 1980.
Et c'est particulier, ça, parce qu'on a souvent tendance à revoir les événements avec nos yeux d'aujourd'hui. Puis, tu sais, aujourd'hui, on sait comment le combat des femmes, le combat des minorités visibles, des minorités sexuelles, c'est quelque chose d'important. Puis hier, on soulignait l'apport qu'il a fait pour ces groupes-là. Mais en 1981, là, vous arrivez au gouvernement, vous voyez Marc-André Bédard. Est-ce qu'il était vraiment quelqu'un de progressiste? Là? Je veux dire, c'était déjà dans lui.
Les gens disent qu'il était... André Bédard, c'est quelqu'un qui était conservateur, il vient du RN, parce que c'était au ralliement national, au moment où il a travaillé avec M. Lévesque à la fondation du Parti québécois. Et à ce moment-là, le RN était considéré comme un parti tendance à droite, tendance conservatrice. Mais il avait l'air d'un conservateur. Mais dans les faits, à mon point de vue, ses gestes contredisent l'image qu'on lui accolait. C'est parce que comme il poussait jamais de hauts cris, il n'était pas en avant de la parade, comme on dit, si vous me passez cette expression. Par ailleurs, le droit de la famille, ben, c'est l'égalité des époux devant la loi. C'est le statut des enfants. Hein. Les enfants étaient considérés comme illégitimes s'ils n'étaient pas nés dans un couple marié. Alors, le statut des enfants va devenir le même, peu importe dans quelle famille on est né. Il va reconnaître le droit des homosexuels parce qu'il va modifier la Charte des droits et libertés pour que ça devienne un facteur de discrimination reconnu par la Charte des droits et libertés. C'était quand même très audacieux. Alors, pour moi, Marc-André, ça reste un progressiste. Un progressiste capable d'être à l'écoute de son peuple, de la population, pour que ses politiques, quand elles sont adoptées, elles vont être soutenues, appuyées par la population. Un journaliste hier soir qui rappelait qu'à un moment donné, dans la cause Morgane Thaler, avec toute la question de l'avortement, on avait, évidemment, les gens avaient perdu devant la Cour suprême, ou en tout cas devant les institutions fédérales. Et à un moment donné, Marc-André a dit à ses procureurs, on ne poursuit plus, on n'intervient plus. Et ça changeait profondément la donne, hein, parce qu'on arrêtait d'aller faire des enquêtes dans les institutions où se pratiquait l'avortement, etc. Pourtant, un homme pratiquant, un homme qui était très près d'un certain nombre de valeurs que certains considèrent plus traditionnelles, mais il a été capable d'être tout cela. Alors moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai beaucoup aimé travailler avec Marc-André. J'ai travaillé avec lui lorsque j'étais jeune, attachée politique, directrice de cabinet avec Mme Payette. Alors, je travaillais avec Mme Payette et je voyais bien la complicité qu'il réussissait à avoir malgré le fait qu'il soit deux personnalités complètement aux antipodes. Mmh. La suite, évidemment, j'ai siégé avec lui comme ministre.
Oui, je vous écoute et c'est incroyable l'apport qu'il aura eu sur l'ensemble du Québec. Et pourtant, sa personnalité plus effacée fait en sorte que je suis convaincu qu'il y a des gens qui apprennent plein de choses en ce moment qui ne savaient pas qu'on devait tout ça à Marc-André Bédard, quelqu'un qui était pourtant très accessible dans la région et qu'on appelle Marc-André.
Et d'ailleurs, ses collègues l'appelaient aussi Marc-André, alors qu'il y a des personnes, comme par exemple M. Parizeau, gardez-moi là, même, qui travaillait avec lui, c'était M. Parizeau. Mais Marc-André, il y avait comme un sentiment de proximité avec lui. Et c'est ce qui se dégageait, vous le définissiez tout à l'heure, et c'est ce qui se dégageait de lui. De telle sorte qu'on se sentait rassuré quand on lui parlait. C'était un homme de gros bon sens, finalement, qui aimait évidemment passionnément le Québec, qui était convaincu de la nécessité de la souveraineté. Et puis, votre région, on n'en parlera pas, il la défendait bec et ongle, de toutes sortes de façons, comme il défendait toutes les régions, parce qu'il souhaitait que le gouvernement soit sensible à ce qui se passait dans nos régions, aux besoins des gens qui vivent en région, de telle sorte que nos politiques soient adaptées à cette réalité-là.
Vous avez eu l'occasion, comme première ministre du Québec, de nommer son fils ministre. Deux petites questions. Oui. À quel point la pression a été forte pour le nommer ministre de la Justice? Et comment ça s'est passé avec le père? Vous avez été témoin de ça.
Oui, absolument. Ben d'abord, il n'a pas été nommé ministre de la Justice.
C'est ça. Je veux dire, à quel point la pression a dû être forte pour que vous le nommiez ministre de la Justice?
Pas nécessairement. Marc-André, c'est un garçon très réservé. Mais cependant, je peux vous dire que quand il a constaté que j'avais nommé trois personnes venant de leur région, hein, parce qu'il y avait Alexandre, Stéphane et Sylvain Gaudreau, ça là, il m'en a parlé. Ça là, Pauline, t'as reconnu l'importance de notre région puis la qualité des gens qui en venaient. Il était tellement heureux de ça. Et non, Stéphane, ben écoutez, c'était quand même un poste prestigieux parce qu'il était président du Conseil du Trésor. Et en plus, c'est lui qui a eu à présenter les premières lois anticorruption suite à la commission Charbonneau. On s'était engagé à modifier nos lois et nos règlements au niveau administratif, l'octroi de contrôle, etc. Et c'est Stéphane, je pense que la loi 1, c'est lui qui l'a présentée. Alors, il avait un rôle très important, plus le fait, et ça, c'est comme son père l'a été aussi, il était leader du gouvernement, c'est-à-dire celui qui, dans le fond, s'occupe de tous les travaux de la Chambre pour le gouvernement.
Et dans la loi 1, vous aviez réformé la participation pour les partis politiques, le financement des partis politiques, et Marc-André Bédard, lui aussi, l'avait fait à son époque.
Oui, absolument. Il a été un des pionniers à cet égard-là. Il l'avait fait dans l'opposition, avait poussé beaucoup un certain nombre de recommandations. Après, c'est pas lui qui a fait celle-là. Je crois que c'est Bernard qui l'a fait, mais évidemment, avec la très grande complicité de Stéphane. Stéphane était quelqu'un aussi d'assez formidable. Moi, j'ai beaucoup aimé travailler avec lui et c'était quelqu'un sur lequel on pouvait compter. Ça aussi, c'était une autre qualité de Marc-André. C'est un homme très loyal. Hein. Il a été auprès de M. Lévesque dans les bons et les mauvais moments et jamais... il ne l'a laissé tomber, si on veut. Et Stéphane était de la même trempe et de la même trempe.
En terminant, comment on honore une personnalité de la grandeur de Marc-André Bédard au Québec, puis et je dirais même régionalement parlant, parce qu'on se pose la question, évidemment, est-ce qu'il aura des funérailles nationales? Oui. Est-ce qu'on pense déjà à la commission de la toponymie pour quelque part à Québec, dans la province, ou on garde ça pour le régional? C'est des questions qui vont se poser.
Moi, je pense qu'il n'y a rien qui n'empêche de le faire aux deux. Hein?
Oui, effectivement.
À mon point de vue, on devrait pouvoir le faire aux deux. Vous pourriez, dans la région, nommer une place, un édifice... un endroit qui est très signifiant. Je pense que c'est important. Il faut que ça ait un rayonnement, finalement. On peut le faire au niveau du Québec, que ce soit, encore une fois, des... parce qu'il y a beaucoup d'édifices gouvernementaux hein, auxquels on songe. Il y a un édifice de Marcel Godin, tête de Gérard Godin à Montréal. Il y a donc des édifices auxquels on peut penser. Il y a des rues, il y a des parcs. Il y a l'édifice Jacques Parizeau, qui est l'édifice de la Caisse de dépôt. Alors, on peut imaginer cela au niveau national, mais au niveau régional, utilisez toute l'imagination dont vous êtes capable pour trouver l'endroit le plus emblématique pour le représenter. Je pense qu'on doit le faire.
Madame Marois, merci beaucoup.
Ça m'a fait plaisir et moi aussi, j'offre mes condoléances à toute la famille. J'ai parlé à Éric et à Stéphane, que je connais mieux, évidemment, et je sais la peine qu'ils ont parce que c'est un homme pour lequel ils avaient un très grand respect, beaucoup d'amour, et ils étaient toujours en contact très fréquent avec lui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.
Bonne journée. Pauline Marois, ex-première ministre et évidemment ex-collègue de travail de Marc-André Bédard.
Et Mme Marois, oui, ben Mme Marois va maintenant devenir l'une de ces figures au Québec qui a reconnu cette période-là. Là,
ben, qui a travaillé avec tout ce monde-là.
Elle a travaillé avec Bernard Landry, avec Jacques Parizeau, avec René Lévesque, avec Marc-André Bédard, avec Claude Charron, avec Camille Lorrain, avec Claude Morin, avec, tu sais, je pourrais en nommer, là, Louise Arel, les péquistes de la belle époque. Là.
Absolument.
De gouvernement de Lévesque de 1976, il y en a de moins en moins.
Ben oui, on avance, évidemment.
On avance dans le temps.
Mais tu sais, quand on écoute toutes les réformes, c'est incroyable pareil, hein, tu sais, des enfants, avant la réforme de la loi sur la famille, étaient considérés légitimes s'ils n'étaient pas nés dans un mariage. Ça remonte à il n'y a pas si longtemps que ça quand même. Là. On était pas mal, les auditeurs, là, actuellement. Je m'inclus là-dedans, on était pas mal tous nés. Là.
Ouais, et l'histoire aussi de l'avortement, elle me l'a rappelé, mais c'est effectivement, je l'ai appris dans mes cours d'histoire aussi, c'est que la décision que le procureur général du Québec avait prise à cette époque-là, qui était Marc-André Bédard, c'était de cesser les poursuites.
Ben oui. Ben oui, décriminaliser l'avortement, littéralement.
La Cour suprême t'a dit OK, lui dit non, OK, c'est correct, moi je bouge plus d'abord.
Ouais.
ça prend du front tout le tour de la tête.
Absolument.
Pareil,
mais tu sais, les bases de ce qu'on connaît aujourd'hui, ça vient de cette époque-là, littéralement. 7h32.
Le show du matin. Pour nous joindre via messagerie texte et téléphone, 543-51-31. Kick 95-7, Saguenay.